Bonjour à sa petite famille et bonjour à la sœur Bernadette si elle est avec toi. Alors, on va prier et après qu'on va débuter notre méditation du jour. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes. Un moment, Seigneur, pour plonger nos regards dans ta parole et un moment pour être rafraîchis par cette parole, mais aussi abreuvés et nourris par elle. Un moment, Seigneur, que tu utilises pour transformer nos façons de voir, nos façons de penser. Un moment que tu utilises, Seigneur, pour façonner nos vies, afin qu'elles correspondent en tout point à ta parfaite volonté. Nous nous soumettons d'avance à ta parole, nous la recevons comme étant vérité pour nos vies encore aujourd'hui, et seule vérité sur laquelle nous voulons aussi fonder notre existence. J'appelle ta bénédiction sur ma sœur, sur mon frère. J'appelle, Seigneur, une compréhension accrue de ta parole sur chacun d'entre nous. Révèle-toi à nous et trouve, Seigneur, nos cœurs bien disposés à recevoir ton enseignement. Quand toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi, nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, nous en sommes rendus à notre 25e journée sur 50 sur cette thématique du jubilé, en fait, sur le texte que Jésus va utiliser concernant sa propre personne lorsqu'il va lire ce texte d'Ésaïe au chapitre 61, lorsqu'il se présente à la synagogue de Nazareth. On étudie la version du Nouveau Testament, donc cette histoire de Jésus, le dimanche matin, mais durant la semaine pour nos bénédictions matinales, et nous en sommes rendus à 25 jours. Donc le matin, on étudie le texte originel le livre d'Ésaïe. Alors, hier, ou en fait cette semaine, on étudie la phrase « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ». On a déjà parlé d'envoyer. On a parlé de guérir hier. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez toujours avoir accès aux enregistrements passés. Et aujourd'hui, on va étudier le terme « cœur ». Mais je lis tout de même avant le texte pour vous, parce que c'est quand même la parole de Dieu, c'est ce que nous étudions, alors on revient dans le texte. Ésaïe au chapitre 61, les versets 1 et le début du verset 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et la phrase d'aujourd'hui, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Lorsqu'on regarde ce texte-là, très souvent, on a comme croyance que la question du cœur brisé, bien que Dieu intervienne sur cette notion-là, on pense que c'est souvent ceux qui sont en peine, ceux qui sont malheureux, ceux qui sont troublés à l'intérieur. Et bien entendu, lorsqu'on parle de guérir le cœur brisé, il est important qu'on aborde cette question-là. Mais lorsqu'on regarde le contexte même de ce verset, lorsqu'on l'associe au fait que Jésus va le prendre pour annoncer qu'il est effectivement le Messie, qu'il est le Christ loin de Dieu, on doit revenir à quelle était la mission du Messie. Et la mission du Messie, c'était le salut de l'humanité. Donc le pardon du péché et des iniquités. Et lorsqu'on va étudier ce matin la question du cœur, on va se rendre compte que c'est intimement lié à cette question du péché. D'autant plus que les semaines prochaines, on va étudier pour proclamer aux captifs la liberté. Donc, la liberté de quoi? La Bible nous parle que le plus grand lien qui existe sur l'homme, c'est effectivement ce lien avec le péché. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance, prisonniers de quoi? Encore là, du péché. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, une grâce par rapport à quoi? Une grâce par rapport aux iniquités. Donc, cette notion de péché est importante dans le contexte du Messie. mais je pense qu'elle est importante aussi dans le contexte de notre étude du jubilé et de comment Dieu veut nous délivrer de plusieurs facettes troubles de notre existence. Alors, allons-y pleinement ce matin. On a 6 déclinaisons pour le terme « cœur ». Donc, en hébreu, le terme « cœur », c'est le terme « leb ». L-E-B. Leb, L-E-B, donc pour « cœur ». Et qu'on retrouve 590 fois. Et voici les déclinaisons, je vous les énumère et après ça, on va les développer une après l'autre. Quand on parle de cœur, on parle de l'homme intérieur. On parle de la volonté de l'homme. On parle des passions de l'homme. On parle de la connaissance. On parle de la compréhension. Et on parle de la résolution. Je répète pour ceux qui prennent des notes. Cœur, leb, L-E-B, 590 fois dans l'Ancien Testament. Et quand les déclinaisons qu'on va voir ce matin ou les synonymes du cœur qu'on va voir ce matin, on va parler de l'homme intérieur, de la volonté de l'homme, des passions humaines, de la connaissance de l'homme, de la compréhension de l'homme et de la résolution de l'homme. Résolution, je vais l'expliquer tout à l'heure, ce qu'on veut dire par résolution. Donc, cœur, leb, homme intérieur. Lorsqu'on parle de l'homme intérieur, on parle donc de ses pensées, de ses émotions et de ce qui est à la base même du bien et du mal. Le mal n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. Le mal vient de par notre condition de pécheur. L'iniquité vient de notre condition de pécheur. Le péché qu'on pourrait commettre par la bouche, le péché qu'on pourrait proclamer, que ce soit lorsqu'on est méchant avec nos propos, lorsqu'on est injurieux avec nos propos, lorsque nos lèvres disent des choses qui n'élèvent pas le nom du Seigneur, mais qui sont plutôt des outrages à sa personne, des blasphèmes devant Dieu. Donc lorsqu'on fait ça, la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche s'exprime. Ça veut dire que le péché en soi n'est pas sur le bout de nos lèvres, mais le péché en soi se trouve au plus profond de notre être. Et voilà pourquoi lorsque le Seigneur vient nous sauver, lorsque le Seigneur vient nous purifier de nos iniquités, il a aussi un travail à faire à l'intérieur de nos vies. Il a un travail à faire au plus profond de nos cœurs, de nos émotions, de nos pensées, de notre façon d'être. Alors, lorsqu'on parle du cœur, la première définition, c'est qu'on parle de l'homme intérieur. Ce qui est fantastique pour toi et pour moi, c'est de savoir effectivement que Dieu veut réparer ce qu'il y a à réparer à l'intérieur de nous. Lorsque le péché d'Adam et Ève a été commis, l'ensemble du genre humain, donc en commençant par nos parents originaux, qui étaient Adam et Ève, mais sur toute la succession qui s'ensuit jusqu'à nous, nous avons été tachés, et je dirais même tarés, donc on a la tare, on a le défaut, on a le manquement du péché en nous. Ça veut dire que notre nature même humaine est devenue pécheresse avec le péché d'Adam et Ève, et génération après génération, de père en fils, de mère en fille, de parent en enfant, on devient nous aussi pécheurs dès la naissance. Donc il y a un travail, il y a une guérison qui doit s'opérer dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre être intérieur, pour correspondre avec la pensée initiale que Dieu avait pour nous. En fait, Dieu vient restaurer notre nature humaine pour qu'elle lui soit agréable et qu'elle puisse siéger dans la toute-présence et dans la toute-puissance de notre Dieu. Donc, lorsqu'on parle du cœur, on parle de l'homme intérieur. Bonne nouvelle pour toi, bonne nouvelle pour moi, bonne nouvelle aussi pour ceux qui nous entourent. On a non seulement cette puissance pour marcher sur les démons, sur les principautés, sur les autorités maléfiques et tout ça, mais on a aussi le pouvoir en nous d'apporter la guérison pour ceux qui ont le cœur brisé, pour tous ceux qui ont la maladie qu'on appelle le péché, la maladie la plus grave, la maladie avec la plus grande incidence sur un homme et sur une femme, une maladie qui pourrait être mortelle quant à la vie éternelle. Donc tu as le pouvoir, tu as le mot, tu as le mandat, tu as le message pour amener ceux qui t'entourent vers la guérison si effectivement ils reçoivent le médicament que tu veux leur apporter qui s'appelle Jésus-Christ. Donc guérison de l'homme intérieur. Lorsqu'on parle du cœur, on parle bien entendu aussi de la volonté, le deuxième terme pour aujourd'hui, volonté. Donc la volonté, c'est quoi? La volonté, c'est cette faculté qui permet de choisir, cette faculté qui permet de faire des choix et des décisions. Donc ici, on est en train de dire que Dieu vient nettoyer, guérir notre capacité à faire des choix et des décisions. Des choix et des décisions à son égard. La Bible dit qu'aucun d'entre nous n'est juste, que nous avons tous été corrompus par le péché. Nul n'est juste, tous ont commis le péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Voilà donc pourquoi il est impossible à l'homme par lui-même de ne pas pécher. Sa nature même est pécheresse. Toutefois, lorsqu'on vient à Christ, lorsqu'on vient vers le Seigneur, il restaure cette nature et il est donc maintenant dans ta possibilité de faire effectivement ce que Jésus va dire aux personnes qu'il va rencontrer et transformer les vies en disant « va et ne pêche plus ». Il t'est possible aujourd'hui de résister, de prendre les bonnes décisions si ta volonté effectivement est restaurée. Et cette restauration ne fait pas en sorte que cette volonté n'est plus entre tes mains. Tu prends cette volonté et tu décides de la placer entre les mains de Jésus. Tu prends cette volonté et tu décides que cette volonté soit soumise à la volonté de Dieu. Donc lorsque tu décides de ne plus pécher, c'est que tu, dans ton libre arbitre, dans ton libre choix, tu décides de soumettre ta volonté, ton libre arbitre, ton libre choix à la volonté de Dieu. C'est comme si tu as deux choix devant toi. Opter pour ta propre volonté ou opter pour la volonté de Dieu. Et ce dilemme est permanent. Il t'est révélé aujourd'hui que tu connais Jésus, mais il était là en permanence avant que tu ne connaisses Jésus. Et pour le restant de ta vie, tu as effectivement ce choix. Vais-je obéir à Dieu ? Où vais-je obéir à mes propres passions, à mes propres penchants et à ma propre nature? Donc Dieu veut rétablir ta volonté comme étant soumise à la volonté de Dieu. Rappelons-nous quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés parfaits, sans tache, sans tare, sans iniquité, sans péché, sans faiblesse, sans point faible dans leur vie, mais avec toute la volonté qui était leur. Donc Dieu, s'il avait empêché qu'Adam et Ève ne pêchent, on l'aurait traité de dictateur, d'injuste, de manipulateur. Jusqu'au moment du péché, la volonté d'Adam et Ève était soumise à la volonté de Dieu. Elle était parfaite étant soumise à la volonté de Dieu. Mais le jour où Adam et Ève ont péché, ils ont décidé de prendre cette volonté et d'en faire leur possession et de la soumettre à leur penchant. La tentation, l'interrogation, la curiosité par rapport aux fruits avait toujours été là. Ils étaient toujours confrontés à cette décision, allons-nous goûter ou pas le fruit ? Mais jusqu'à ce moment-là, ils avaient soumis leur volonté à la volonté de Dieu, et ce faisant, cette volonté était parfaite. Mais le jour où ils ont pris les rênes de cette volonté, en disant « Nous ne la soumettons plus à Dieu, nous la prenons entre nos mains, nous en faisons ce que nous voulons », ils ont été goûter le fruit de la connaissance du bien et du mal, et ils nous ont amenés avec eux dans ce tourbillon, dans cette tempête du péché qui fait que génération après génération, au lieu de nous améliorer, on va de mal en pis, étant inique, pécheur et condamné devant Dieu. Donc, quand on nous appelle d'aller guérir, on nous appelle à guérir l'être intérieur de ceux qui nous entourent, mais on appelle aussi à guérir la volonté de ceux qui nous entourent, les amener à remettre cette volonté entre les mains de Dieu, à réasseoir cette volonté sous la domination, dans le bon sens du terme, parce qu'on parle de Dieu effectivement, donc ce n'est pas un dictateur, à placer notre volonté sujette à la volonté de Dieu. Quand on parle de cœur, le troisième terme qu'on a mentionné tout à l'heure, on parle des passions. Donc la volonté, c'était la faculté qui permet de choisir entre le bien et le mal. Ici, lorsqu'on parle des passions, on parle de l'instinct et de notre nature qui sont enclins au péché. Tout à l'heure, on parlait du fait qu'on décide ou non de pécher. Et ici, on parle du fait que nous sommes attirés constamment vers le péché. Notre nature pécheresse nous amène vers le péché. Et ces passions-là, ces instincts, ces réactions que certains vont dire normales, et je comprends la terminologie de normale, elle est normale simplement parce qu'on est pécheur, mais nous ne sommes pas appelés à rester dans cette nature pécheresse et nature ayant été touchée par la tare du péché. Donc notre nature, notre instinct doivent être soumis à la nature de Dieu. Voilà pourquoi le Nouveau Testament va nous parler de mourir à soi-même, de naître de nouveau. Lorsqu'on vient à Christ à travers la nouvelle naissance, on vient à être une nouvelle créature. Et dans ce processus de nouvelle créature, notre nature est renouvelée. On ne peut pas s'approcher de Dieu si on est dans l'iniquité et le péché. On ne peut pas s'approcher de Dieu étant dans l'impureté. Et voilà pourquoi notre nature est nettoyée par le sang de Jésus versé à la croix, nettoyée par son sacrifice qu'il a accompli pour nous. Et voilà pourquoi nous avons maintenant cette nature qui nous permet, ayant été recouvert, ayant été renouvelé, ayant été reformaté, on va dire dans des termes très contemporains, ayant été reformaté pour cadrer maintenant avec le plan divin. Donc Dieu travaille notre nature, Dieu travaille notre instinct, Dieu renouvelle notre être intérieur pour pouvoir ne plus être enclin au péché, mais avoir cette force, cette autorité pour résister au péché. Un quatrième point, on parle de la connaissance du cœur comme de la connaissance. Et ici, on parle de la notion intellectuelle de ce qui est bien, de ce qui est mal. La parole de Dieu, la Bible, vient nous instruire de la pensée de Dieu sur l'être humain. Et par conséquent, nous instruit aussi de ce que Dieu approuve par rapport à ce que Dieu désapprouve. La parole de Dieu, la Bible, va nous dire « voici ce que Dieu aime, voici ce que Dieu haït, voici ce que Dieu peut bénir, mais voici ce que Dieu va condamner aussi. » Et cette connaissance du bien et du mal nous est donnée à travers la lecture, à travers l'étude de la parole de Dieu. Il y a des gens qui vivent sans connaître la parole de Dieu et ne sont pas capables intellectuellement de distancer ce qui est bien ou de différencier ce qui est bien de ce qui est mauvais. Notre nature humaine étant si habituée au péché, si enclin au péché, on en est venu à travers le temps à déclarer ce qui était mal comme étant bien et ce qui était bien comme étant mal. Je répète, on en est venu à appeler ce qui était bien comme étant mal et ce qui était mal comme étant bien. On a fait de ce qui était approuvé par Dieu quelque chose qui est dénigré par les hommes. Et ce faisant, parce que c'est dénigré par les hommes, on va fuir ces choses-là. Mais on va se retrouver face à quoi? Face à une tentation de faire ce qui est mal. On va prendre ce qui était mal aux yeux de Dieu et on va le déclarer comme étant bien. Et ce faisant, on va dire, ben, tout le monde le fait, alors faisons-le nous aussi. Donc, tout ce qui est fait depuis ces générations qui sont dans le péché et dans l'iniquité, fait en sorte que notre connaissance, notre capacité à identifier ce qui est bien de ce qui est mal, en est venue à être troublée, en est venue à être confondue. Mais la parole de Dieu, lorsqu'on l'étudie, on vient apprendre, ah, voici ce que Dieu aime. Ah, voici ce que Dieu n'aime pas. Ah, voici ce que Dieu approuve. Voici ce que Dieu désapprouve. Voici ce que Dieu peut bénir, mais voici ce que Dieu condamne. La lecture de la parole de Dieu va nous donner cette connaissance. Donc, homme intérieur, volonté, passion, connaissance. Cinquième point, compréhension. Non seulement la notion intellectuelle de ce qui est bien, de ce qui est mal, quand on parle de la connaissance, mais la compréhension, on nous parle plutôt de cette capacité à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, à discerner ce qui cadre avec la volonté de Dieu de ce qui ne cadre pas avec sa volonté. Il y a des situations avec lesquelles on est confronté parfois et ce n'est pas écrit textuellement « voici ce que Dieu aime et voici ce que Dieu n'aime pas ». Parfois, c'est une action qui est officiellement bonne, mais les raisons pour lesquelles elles sont posées sont mauvaises. Parfois, je vais répondre avec une voix doucoureuse, mais cette voix toute douce que j'utilise est en fait remplie de mesquinerie. À une époque, et parce que j'ai étudié en lettres, j'étais quelqu'un qui aimait manier les mots. Donc, lorsque quelqu'un m'embêtait, j'utilisais les mots pour que tout le monde puisse rire, à part la personne qui était sujette à ma phrase. Je m'en suis repenti, je m'en suis détourné et je crois que je ne le fais plus aujourd'hui. En tout cas, je fais tout pour ne pas l'utiliser. Mais c'était quelque chose que j'utilisais régulièrement dans ma vie de tous les jours. Donc, officiellement, tout le monde riait, donc tout le monde était de bonne humeur. Mais ce que j'avais dit était blessant, très blessant, voire perçant pour le cœur de celui qui le recevait. Donc, peut-être que pour certains, j'étais tout simplement le clown de la foire, celui qui amenait l'ambiance, mais dans le fin fond, ce que je cherchais, c'était à blesser quelqu'un. Donc, parfois, les choses même qu'on fait, on doit percevoir est-ce que la motivation derrière, est-ce que la pensée derrière est effectivement celle qui honore Dieu? Alors voilà pourquoi nous devons aussi avoir ce discernement. Et parfois, les pièges de l'ennemi ne sont pas aussi limpides que tout simplement noir et blanc. Parfois, c'est une espèce de zone grise dans laquelle on doit discerner qu'est-ce qui se passe. Moi, je suis très, 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 très peu friand des zones grises. Quand il y a une zone grise devant moi, en règle générale, je l'évite parce que je me dis, gris, ça veut dire qu'il y a 50% de noir et 50% de blanc. Donc, il y a 50% de bien, il y a 50% de mal. Donc, j'essaie d'éviter ça et je me concentre sur ce qui est beaucoup plus limpide, ce qui est beaucoup moins opaque. Donc, ça, c'est une décision personnelle, c'est une compréhension personnelle. Mais effectivement, à l'occasion, le Seigneur va nous permettre de discerner, voici, là, c'est un piège. Si tu avances plus loin, tu t'en rends pas compte, mais dans 2 ou 3 pas, dans 2 ou 3 semaines, dans 2 ou 3 mois, voire dans 10 ans, cette décision que tu prends aujourd'hui va jouer contre toi. Ça a été tout simplement un piège, un stratagème que l'ennemi a bâti autour de nous pour nous faire tomber. Voilà pourquoi ça nous prend la compréhension, le discernement de ce qui est bien versus ce qui est mal. Dernier point aujourd'hui, ce qu'on appelle la résolution. La résolution, ici, ce n'est pas le fait de soulever un problème. La résolution, ici, c'est de prendre une décision. Quand on parle de la résolution de faire une chose, une résolution au niveau d'une loi, au niveau du gouvernement, le gouvernement a pris la résolution de. Donc, ils ont pris la décision. Ils ont mis de l'avant un édit qui proclame telle ou telle chose. Donc ici, on parle de la décision à s'attacher au bien et non au mal. Un peu comme les résolutions qu'on prend en début d'année. Je suis convaincu que parmi nous, il y en a encore cette année qui ont pris des résolutions vers la fin de l'année 2020 en disant « En 2021, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais améliorer, voici ce que je vais abandonner, ce que je vais adopter comme nouvelle pratique. » Et là, on est rendu au 27 janvier. Certaines de ces résolutions sont encore tenues, mais je suis convaincu qu'il y en a plusieurs qui ont déjà été abandonnées comme résolutions. Donc, quelle est ta résolution par rapport au bien et au mal? Quelle est ta résolution par rapport à vivre une vie qui est intègre devant Dieu? Quelle est ta résolution par rapport à obéir ou non à la volonté de Dieu? Donc, lorsqu'on parle du cœur, on va donc parler aussi de cette décision, de cette capacité à prendre une décision de nous attacher. Quand on parle de résolution, c'est pas quelque chose genre « Ah, je décide de faire telle chose aujourd'hui ». Non, la résolution, ça a toujours trait à des habitudes qu'on veut prendre, à des façons de vivre qu'on veut adopter, qu'on veut faire nôtre à partir de cet instant. Certains vont dire « Oui, à partir du 1er janvier, je vais manger moins de fritures. À partir du 1er janvier, je vais m'entraîner un peu plus. » À partir du 1er janvier, je vais boire davantage d'eau et je vais laisser les boissons sucrées. À partir du 1er janvier, je vais prendre une demi-heure de marche par jour au lieu de regarder la télévision. Donc, c'est des décisions qu'on prend non pas sur une journée, mais qu'on prend pour l'espace-temps de cette nouvelle année, voire même pour le restant de notre vie. Alors, quelle est la résolution que tu as prise par rapport à Jésus? Quelle est la résolution que tu invites les gens autour de toi à prendre par rapport à Jésus? Alors, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu que le Seigneur veut venir guérir le cœur, donc l'homme intérieur, tout ce qui a trait à la pensée, tout ce qui a trait aux émotions et tout ce qui est en fait à la base de notre choix du bien ou du mal. Dieu veut travailler notre volonté, leb, cœur, pour le sens de volonté, notre faculté qui permet de choisir entre le bien et le mal. Ce qui va faire en sorte que je choisisse de me conformer à la volonté de Dieu ou de m'y opposer. Cœur, leb, dans le sens de passion, donc notre instinct, notre nature qui est enclin à cause de cette nature pécheresse vers le péché. Dieu veut réparer, Dieu veut restaurer cela, pour faire en sorte que même nos passions soient enclins à Christ. La connaissance, donc notre notion intellectuelle de ce qui est bien versus ce qui est mal. Connaître la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu pour que cette parole habite en nous et on soit capable, à la lumière de cette parole, d'identifier ce qui est bien de ce qui est mal de façon intellectuelle. Compréhension, notre capacité à discerner, à percevoir ce qui est bien de ce qui est mal. À un moment donné, on devient si intime avec le Seigneur qu'on perçoit ce qui réjouit son cœur versus ce qui attriste son cœur, ce que son cœur s'emballe, ce pourquoi son cœur s'emballe et ce pourquoi son cœur en devient blessé, attristé. Donc, compréhension et enfin, résolution, donc notre capacité à décider de s'attacher au bien et non au mal. Tu as des décisions à prendre aujourd'hui. J'ai des décisions à prendre aujourd'hui. J'ai à demander à Dieu si telle est ma décision et si telle est ta décision, que Dieu se révèle davantage en moi. Je veux laisser de moins en moins de place à ma propre personne qui est mauvaise et qui est pécheresse pour laisser de plus en plus de place à la personne de Dieu en moi. Je veux que Dieu, sa présence, soit davantage palpable, davantage visible dans ma vie que ma propre personne. Pourquoi? Parce que je sais que ma propre personne ne peut pas m'amener à Christ. Ma propre personne va m'amener vers le péché. Donc, j'ai besoin, non pas moi, mais lui dans ma vie. Je veux diminuer pour que lui s'élève. Alors prions tous ensemble. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avions besoin d'un sauveur. Nous reconnaissons que notre nature est encore imparfaite. Paul disait, voici ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, voilà ce que je fais. Donc lui-même, après toutes ces années, comme un grand apôtre, comme quelqu'un qui a eu des révélations si profondes de toi, encore après toutes ces années, il luttait contre le péché. Il luttait contre sa nature pécheresse. Alors nous aussi, Seigneur, nous voulons combattre le bon combat. Nous aussi, Seigneur, nous voulons combattre le combat de la foi. Nous voulons, Seigneur, diminuer pour que toi, tu t'élèves. Nous voulons, Seigneur, placer sous le contrôle de ta main toute puissante, sous le contrôle de ton esprit. Nous voulons placer comme t'appartenant et comme toi ayant tout droit et tout accès et toute volonté sur notre être intérieur. Seigneur, nous soumettons notre être intérieur à ta personne. Seigneur, nous soumettons notre volonté à ta personne. Seigneur, nous soumettons nos passions, notre instinct à ta personne. Seigneur, nous soumettons notre connaissance perfide à la connaissance parfaite de Christ. Seigneur, nous soumettons notre compréhension, notre analyse, notre réflexion, notre discernement, notre instinct à ta personne. Et Seigneur, nous soumettons notre décision à ta personne. Nous mettons notre volonté au pas avec ta volonté. Nous mettons, Seigneur, notre volonté en complète soumission à ta volonté. Non pas nous, mais toi. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus, à la veille de sa mort, lorsqu'il intercédait en tant qu'homme et qu'il priait en disant, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de mes lèvres, il a tout de même soumis sa volonté à la volonté du Père, en disant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors Seigneur, dans ma propre vie, parce que je ne peux pas intercéder ainsi pour mon frère et ma sœur, mais je prie pour moi-même, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Afin, Seigneur, que quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que soient les choses vers lesquelles j'aspire, quels que soient les objectifs que je pourrais avoir devant moi, que tout cela, Seigneur, cadre avec ta volonté et non pas la mienne. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Permettez-moi juste de saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis tout à l'heure. Donc Hélène, contente que tu sois avec nous toute seule ce matin. Sois bénie, j'espère que tu as été enrichie ce matin. Bonjour Farley, bonjour Marie-André, bonjour Rachel, bonjour Mona, bonjour Ocilia, bonjour Chantal, bonjour Diane, bonjour Diana, bonjour Manon, bonjour au pasteur André, bonjour Soraya, bonjour Benjamin et les enfants, bonjour Tatiana, bonjour Ozani, bonjour Maggie, bonjour Daniel, Dieu vous bénisse, bonjour Linda, bonjour à la sœur Nora et à son époux, bonjour Ramon, bonjour Evelyne, bonjour Yann, bonjour Félicité, bonjour aux enfants, bonjour Aneris, bonjour Jocelyne, bonjour Jacques, bonjour Eric, sois béni, bonjour bonjour Sylvie, on a déjà salué. Donc c'est tout pour ce matin au niveau des salutations. On est mercredi, on vous rappelle, il y a étude biblique ce soir avec le pasteur André. Ça a déjà été enregistré, donc ça sera diffusé ce soir à 19h. Hein, comme vous savez, il y a un couvre-feu et les réunions, même lorsqu'on fait la captation ou les enregistrements de nos réunions, elles doivent être faites en respectant le couvre-feu. Donc, ça serait difficile que le pasteur Sergio ou les personnes qui font la diffusion avec lui soient de retour avant 20h à la maison. Donc, on enregistre les enseignements du pasteur Sergio et on les diffuse par contre pour vous en direct à 19h ce soir. Donc, ce soir, étude biblique avec le pasteur Sergio. Toujours une étude sur le livre ou sur l'évangile de Marc avec comme thématique « Servir Dieu dans des temps de défi ». Et je crois que plusieurs d'entre vous avaient été bénis jusqu'à présent. Donc ce soir, et puis pour nous, on se retrouve demain matin où on poursuit notre thématique et qu'il nous a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Demain, on va parler de la question du brisement du cœur. Donc que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin pour ce moment de bénédiction matinale. Bonne journée à tous. Au revoir.